Salut! Aujourd'hui, je vais te lire le début du livre Pantin diabolique de la collection Frisson aux éditions Héritage Jeunesse. Il a été écrit par l'auteur France Gosselin. Et France Gosselin, ben, c'est moi! Dans cette histoire qui fait un peu peur, tu vas faire la connaissance de l'étrange Monsieur Séverin qui possède dans sa boutique des objets au passé frissonnant. Alors, t'es prêt? Voici Pantin diabolique. Prologue. Le travailleur descend de sa pelle mécanique. Ses bottes s'enfoncent dans la terre qu'il vient tout juste de retourner. Il traverse le terrain de la future maison qui sera construite et dont il doit creuser le sous-sol. Un objet reflète les rayons du soleil au milieu de la cour. C'est une boîte métallique qui dépasse du monticule de gravier. Elle est abîmée, mais entière. Sa taille est celle d'un petit melon et comporte une manivelle sur le côté. Il la retourne entre ses gants de cuir. Le devant présente un damier et sur les autres faces, on devine une silhouette. Curieux, le travailleur l'approche de ses yeux. Il est difficile de reconnaître de quoi il s'agit. Les images sont tellement pâles qu'elles l'éblouissent. L'homme actionne la manivelle. Une musique de cirque grinçante commence à jouer. Ses poils se dressent sur ses bras, tandis qu'il reconnaît un clown dans l'illustration délavée. Ça lui rappelle combien ces personnages le terrorisaient quand il était enfant. Derrière ce sourire trop joyeux, il avait l'impression que se cachait un monstre prêt à dévoiler ses dents pointues à tout moment. Encore aujourd'hui, il ne se sent pas à l'aise lorsqu'il en voit un. Il continue de tourner la tige d'acier. Il est un homme maintenant, plus un enfant. Ce serait ridicule d'avoir peur de ce vieil objet. Soudain, le panneau du dessus se soulève, propulsant un pantin jaune qui rebondit au bout de son ressort. Le travailleur sursaute, laissant tomber la boîte. Il regarde autour de lui avant de reculer effrayé. À travers le rire qui s'élève de l'objet, il entend quelqu'un chuchoter son nom. Chapitre 1. Un lieu inquiétant. La tête appuyée contre la vitre de la voiture, je regarde défiler les arbres le long de l'autoroute. La maison dans laquelle nous habiterons bientôt est si éloignée de l'ancienne que je devrais changer d'école. Mais c'est vrai que le terrain est immense. Corinne, ma belle-mère, a même proposé que nous ayons un chien. « Qu'est-ce qui est invisible et qui sent drôle ?» demande Maëlle. Comme à son habitude, ma demi-sœur n'a pas cessé de jacasser depuis que nous sommes sur le chemin du retour. Elle veut toujours attirer l'attention. Dans le rétroviseur, les yeux de mon père semblent chercher la réponse à sa devinette, puis il hausse les épaules. « Je ne sais pas. Un pet de clown !» s'exclame-t-elle. Il tente de se contenir, mais c'est plus fort que lui et il éclate de rire. Moi aussi, je ne peux m'empêcher de sourire. Très amusant, Maëlle. Tu feras une excellente clown. Tu ne trouves pas que ta sœur serait bonne, Simon? Je le corrige en appuyant sur le premier mot. Demi-sœur. Il faut quand même qu'elle réussisse l'audition. Le dernier jour de classe, l'école organise une fête foraine dans la cour. Un chapiteau sera dressé dans lequel des élèves feront des numéros inspirés du cirque. Comme l'activité prévue est populaire, un jury d'enseignants a été formé pour sélectionner les participants. Pour l'instant, il n'y a personne d'autre d'inscrit, déclare Maëlle. Comme ça, ils te prendront même si tu es mauvaise. Elle me donne un coup de coude dans les côtes. Je la pousse. Elle réplique. Cessez de vous chamailler tous les deux. Je dois réfléchir. Au changement de ton de mon père, Maëlle s'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? On va bientôt manquer d'essence et le panneau qu'on vient de dépasser annonçait que la prochaine station est à 10 km. On ne se rendra pas. Il va bientôt faire noir, on ne va pas passer la nuit ici? Je ne le dis pas, mais je partage les craintes de ma demi-sœur. La route est un couloir bordé d'une forêt aux arbres serrés. Il n'y a aucun commerce, aucune publicité, aucun chemin secondaire. J'aperçois une masse foncée qui bouge sur le bas-côté. Je reconnais les rayures de la queue d'un raton laveur. Excitée, j'étire le bras vers Maëlle. C'est la première fois que j'observe cet animal en vrai. J'imagine qu'elle aussi. J'ouvre la bouche pour la prévenir, mais retiens ma phrase. Il y a quelque chose qui cloche. À mesure que nous nous rapprochons, je découvre la scène. La bête est un amas de poils difformes et gluants dans lequel picore un corbeau. C'est dégoûtant. Mieux vaut qu'elle ne voie pas ça. Mon père aperçoit une enseigne. Nous sortons de l'autoroute et rejoignons le commerce. Le bâtiment n'a rien d'une station-service. La devanture formée de planches noircies est percée de fenêtres auxquelles pendent de lourds rideaux bruns. Une multitude de vieux objets jonchent la galerie du premier étage. Ça ressemble davantage à une maison hantée. Nous suivons mon père hors de la voiture pour nous dégourdir un peu. Un grincement me fait lever les yeux. Sur un poteau blanc tacheté de rouille, des chaînes retiennent une pancarte de métal que le vent balance. On devine le logo d'une marque de boissons gazeuses sous la surface repeinte. Par-dessus, on a tracé le nom du magasin. Le bazar de M. Séverin. Mon père pousse la porte et disparaît à l'intérieur. « J'aurais peut-être choisi une nuit en forêt, finalement, » dit Maëlle. « La maison n'est peut-être pas rassurante, mais moi je préfère y aller plutôt que demeurer seule dehors. » Je grimace au tintement de la cloche qui accompagne mon entrée. Bien que les rideaux soient ouverts, l'intérieur est sombre. De hautes étagères remplies d'objets usagés forment des allées pêle-mêle. Je sursaute. Je viens d'apercevoir une silhouette noire qui m'observe. Elle se dresse un peu plus loin, menaçante. Je retiens mon souffle. Fausse alerte. C'est une patère avec un imperméable couronné d'un chapeau à large bord. Je m'approche de ce qui ressemble à une collection de bouteilles. Elles reposent devant une fenêtre qui accentue la coloration de leur verre. Juste à côté est suspendu un petit cerceau constitué de branches tordues au centre duquel s'entrecroisent des cordes. Je sens une pression sur mon épaule. Est-ce le monstre de la patère qui a pris vie? Je sais bien que c'est impossible, mais je me retourne tout de même avec la crainte de découvrir une personne maléfique plantée derrière moi. Ce n'est que Maëlle. Je n'avais pas remarqué qu'elle m'avait suivie à l'intérieur. « Quel magnifique capteur de rêve !» s'exclame-t-elle. Je me demande s'il ne sert qu'à retenir les cauchemars ou s'il permet aussi de capturer les bonnes idées. Soudain, les plumes d'argent qui y sont suspendues se mettent à virevolter. Nous les observons se soulever et redescendre sans arrêt. Qu'est-ce qui peut les faire bouger comme ça? La fenêtre est pourtant bien fermée. Je place ma main contre la vitre. Un mince filet d'air s'introduit. Ce doit être ce qui les agite. Une voix familière s'élève du fond de la boutique. « Excusez-moi, il y a quelqu'un? » Le propriétaire de l'endroit semble introuvable. Mon père se tient devant une porte, ouverte. La pièce est entièrement plongée dans le noir. Nous le rejoignons. Les ténèbres dégagent une odeur de poussière et de moisissure. Il suggère. Ce doit être l'axe que sont entreposés les objets qui n'ont pas encore été nettoyés. Derrière nous, une voix grave déclare. En fait, ce sont plutôt ceux que je n'ai pas encore rencontrés. À suivre.